carmélite. Je passe très vite, ou je passe même complètement sur les circonstances de la rédaction Dialogue du Carmélite, ça serait intéressant. Enfin, Bernanos en Tunisie, aux confins du désert, malade, va recevoir la proposition de faire un scénario de film, ce qu'il n'a jamais fait de sa vie, et à partir de la nouvelle de la romancière allemande Gertrude von Lefort, et il va écrire ce chef-d'œuvre, La prieure qui meurt à 59 ans, et il a 59 ans lui-même, vous voyez un peu, bon. Et ce manuscrit restera dans un placard, ne sera découvert par Albert Béguin que plus tard, par la famille, ça sera une pièce de théâtre, et surtout, fait aussi un opéra, musique de Poulenc, et ce qui est très curieux, c'est que dans le fond, Bernanos sera connu dans le monde à cause de l'opéra de Poulenc, et y compris au Japon, y compris en Amérique, et tout. Il continue à être joué d'ailleurs à l'opéra. Je laisse aussi les questions, est-ce que Bernanos a connu le Carmel, tout ça. Il avait écrit dans le chemin de la Croix des Armes, les articles de journaux brésiliens, « La conscience catholique s'est formée dans le silence et la solitude des vies cachées. Elle s'enrichit sans cesse des méditations, des sacrifices et des prières de milliers d'êtres obscurs, dont le nom est connu de Dieu seul, et qui gardent toutes ces choses dans leur cœur, comme il est dit de la Vierge Marie, leur indicible modèle. » Voilà comment il voit la vie contemplative. Bon. La prieure dit à Blanche de la Force quel est l'objectif de la vie carmélitaine, c'est la postulante qui arrive. N'allez pas vous imaginer que le premier devoir de notre état soit de venir en aide les unes aux autres, afin de nous rendre plus agréables au divin maître, comme de jeunes personnes qui échangent leur poudre et leur rouge avant de paraître pour le bal. Notre affaire est de prier, comme l'affaire d'une lampe est d'éclairer. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'allumer une lampe pour en éclairer une autre. Au cours des siècles, bon, le Carmel français a pu s'éloigner quelque peu de l'influence thérésienne et a pu apparaître comme un ordre où l'ascèse primait. La prieure rectifie cette opinion. Ma fille, nous ne sommes pas une entreprise de mortification ou des conservatoires de vertu. Nous sommes des maisons de prière. La prière seule justifie notre existence. Qui ne croit pas à la prière ne peut nous tenir que pour des imposteurs ou des parasites. Si nous le disions plus franchement aux impies, nous nous ferions mieux comprendre. Et le Carmel est donc envahi par les révolutionnaires, etc. Et la prieure est encore, notre vocation n'est pas de nous opposer à l'injustice, mais de l'expier. Et ça sera le pardon comme le Christ sur elle. Ne nous opposant pas à l'injustice, nous n'avons pas le droit d'en juger non plus les instruments. Dans notre pensée comme dans notre prière, ceux qui nous persécutent ne sauraient se distinguer des autres pauvres, ou ils ne s'en distinguent que par une pauvreté plus grande, ou pour mieux dire, par la plus extrême misère qui soit concevable, puisqu'ils semblent privés de la grâce de Dieu jusqu'au point de se croire les ennemis de sa majesté. Cette pauvreté-là ne saurait se soulager avec de bonnes soupes. C'est d'oraison qu'elle a besoin. Et la tradition du Carmel est d'en fournir d'une qualité irréprochable. Voilà qui doit nous tenir dans la modestie. Et puis, je dois tout citer, quand elle parle de la vraie prière, celle du petit pâtre qui garde ses moutons. Ça fait penser à Bernadette. Elle dit, il nous faut très longtemps pour retrouver cette prière de l'enfance. Je me demande même si je ne vais pas oublier de citer ce texte Marie. Bon, alors, ça permet d'entrer tout de suite dans ce chemin christique du curé d'Ambricourt, mais en même temps dans sa prière. Le père de Guillou a dit, à travers chacun des personnages de Bernanos, transparaît plus ou moins parfaitement le seul visage qui compte, celui de l'innocent, Jésus. Quelle étonnante figure que celle du curé de campagne. Et le père Congar a dit, comme roman de la grâce, le journal est unique dans notre littérature. Je ne dis rien, peut-être je dirai un peu plus ce soir avec le film, sur la tendresse de Bernanos pour ce roman-là. Bon, j'ai très beau texte, mais bon, je ne peux pas tout dire. Je vais aller un peu plus vite pour arriver à sa prière. Bon, je cite un texte quand même. Oui, j'aime ce livre. J'aime ce livre comme s'il n'était pas de moi. Je n'ai pas aimé les autres. S'il m'est présenté au jour du jugement, je n'oserais pas lui dire en face, je ne te connais pas, car je sais bien qu'il a une part de mon secret. Un malheureux petit prêtre qui ne demande qu'à passer inaperçu. Il est vicaire à Amiens, puis nommé dans cette paroisse dans les années 30. Bon, là, je renvoie beaucoup au film. Ce qui compte, c'est pas son histoire, parce que Bernanos avait résumé l'histoire comme ça. J'ai commencé un beau vieux livre que vous aimerez, je crois. J'ai résolu de faire le journal d'un jeune prêtre à son entrée dans une paroisse. Il va chercher midi à 14 heures, se démène comme quatre, faire des projets mirifiques qui échoueront naturellement, se laisser plus ou moins duper par les imbéciles, les vicieuses et les salauds. Et alors qu'il croira tout perdu, il aura servi le bon Dieu dans la mesure même où il croira l'avoir desservi. Sa naïveté aura raison de tout et il mourra tranquillement d'un cancer. Voilà le résumé par Bernanos. Alors, ce résumé ne tient pas compte de l'essentiel, un itinéraire intérieur d'une aventure spirituelle dans la monotonie des jours et la grisaille du quotidien, dans l'indifférence et bientôt l'hostilité quasi générale. Il est né dans une famille très pauvre, etc., élevé dans la misère, tout ça, j'ai l'expérience de la souffrance. Bon. Il passe de cette maison au séminaire, et il devient un notable, il habite la plus belle maison du village, il y a un château, mais il est assez déclassé parmi ses paroissiens, étranger au monde des nobles pour lequel il éprouve une naïve admiration, étranger aux paysans et aux commerçants qui le méprisent, car il leur apparaît comme un intellectuel ou, comme dit le curé de Torcy, un poète. Un poète. Il reste misérable, mal habillé avec sa soutane rapiécée, ses gros souliers, mangeant mal de pain et de vin, contraint de tenir un rang qui n'est pas le sien, etc. Il est plus grave, cette misère est inscrite dans une chair qui a une lourde hérédité repérée par le docteur Delban. Vous ne valez pas cher. Pas difficile de comprendre que vous n'avez pas toujours mangé votre sou. Hein. J'ai dit peut-être, ai-je répondu, mais à présent il est trop tard. Et l'alcool, qu'est-ce que vous en faites de l'alcool? Oh, pas celui que vous avez bu naturellement. Celui qu'on a bu pour vous, bien avant vous que vous ne veniez au monde. Et alors le curé Torcy un jour le voit en train de boire une affreuse teinture et lui dit « Ne va pas croire que je te prenne pour un ivrogne. » Notre ami Delbande avait mis le doigt sur la plaie du premier coup. « Nous autres dans nos campagnes, nous sommes tous plus ou moins fils d'alcooliques. Tu es né saturé, mon pauvre bonhomme. » Bon, voilà une hérédité qui pèse lourd sur lui. Bon. Alors évidemment, on l'appelle triste à vire. La maigreur est exceptionnelle, etc. Il a une âme d'enfant, comme les saints bananosiens. Je commence à m'habituer moi-même à cette triste figure qui ne peut plus maigrir et qui garde cependant un air inexplicable de jeunesse, je n'ose pas dire de santé. À mon âge, un visage ne s'effondre pas, la peau tendue sur les os reste élastique, c'est toujours ça. Alors on l'appelle mon enfant, mon petit, etc. Alors on lui donne des bons conseils, les doyens de Blangermont. À votre âge, on a volontiers des jugements absolus. Méfiez-vous de ce travers. Quand vous aurez beaucoup vécu, vous comprendrez. Avec, à mon âge, vous verrez. Quand vous aurez mon âge, vous verrez. Et lui répond, il faut vivre, c'est affreux. Il a gardé de la jeunesse l'apparence frêle, la gaucherie, la timidité, le respect naïf des grands de ce monde. Bon. Une complicité l'unit aux enfants, au moins ceux qui n'ont pas encore l'expérience du mal, le rapport avec le catéchisme, je passe assez vite. Et l'enfance est très présente dans sa tête. Tout le jour, je n'ai eu dans la tête que des images d'enfance. Mais on se tromperait si on le prenait pour un adolescent attardé, un rêveur romantique, inapte à tout ministère adulte. Certes, il reconnaît son inaptitude aux besoins pratiques, à la prudente administration d'une paroisse, mais il n'a rien d'un flâneur, d'un négligent. Avec courage et méthode, il s'attaque à un programme pastoral. Il décide de monter un club sportif, nous sommes dans les années 30, les patronages, de visiter systématiquement tous ses paroissiens dans ses trois annexes, de renoncer à une certaine improvisation et de travailler davantage ses catéchismes. Le curé de Sorcy lui dit « Tu travailles comme un cheval, tu te crèves ». Quant aux autres confrères, ils trouvent ce programme complètement extravagant. Et il écrit « Les gens qui prétendent nous juger de loin, du fond d'un bureau confortable, où ils refont chaque jour le même travail, ne peuvent guère se faire une idée du désordre, du décousu de notre vie quotidienne. À peine suffisons-nous à la besogne régulière. Celle dont la stricte exécution fait dire à nos supérieurs « Voilà une paroisse bien tenue ». Reste l'imprévu. Et l'imprévu n'est jamais négligeable. Suis-je là où notre Seigneur me veut ? Question que je me pose 20 fois par jour. Cet homme est un lutteur, un guerrier, un combattant. Lui, si timide, ne se dérobe jamais devant un affrontement exigé par son ministère. Il sait donc faire face, selon une expression chère à Bernanos. Plusieurs fois, il affronte la haine de la jeune Chantal révoltée. La rencontre pathétique avec la comtesse témoigne de cette combativité inflexible lorsque l'honneur de Dieu et la vérité des êtres sont en jeu. La châtelaine ne reconnaît plus alors ce brave petit prêtre. « Cette manière de parler, cet assurant, ma parole, je crois rêver, » dit-elle. Lui-même d'ailleurs ne se reconnaît pas. J'avais probablement perdu la tête, je me suis jeté en avant, à la manière d'un timide qui, pour être sûr de remplir son devoir jusqu'au bout, se ferme toute retraite, s'engage à fond. Le curé de Torcy, qui s'y connaît en homme, ne s'est pas trompé sur la véritable personnalité de celui qu'il appelle son petit gribouille. Il est difficile d'avoir une opinion sur tes expériences. Parce que tu les fais à fond, tu t'engages. Je te traite de va-nu-pied, mais je t'estime. Prends le mot pour ce que tu vaux, pour ce qu'il vaut, c'est un grand mot. À mon sens, le bon Dieu t'a appelé, pas de doute. Physiquement, on te prendrait plutôt pour de la graine de moine, n'importe. Si tu n'as pas beaucoup d'épaules, tu as du cœur, tu mérites de servir dans l'infanterie. Bien que très différent de son confrère de Torcy, le chanoine de la Motte Beuvron ne juge pas autrement le jeune prêtre. Vous engagez votre pouvoir à fond et sans doute à votre insu. Vous n'êtes pas de ces gens qui peuvent parler pour ne rien dire. Des hommes aussi divers que le docteur Delbande ou le légionnaire Olivier partagent la même opinion. Le docteur dit au curé « Torcy, vous et moi, nous sommes de la même race, une drôle de race ». Celle qui tient debout. Quant au militaire, il estime que le jeune prêtre pourrait appartenir à sa troupe de la Légion. N'était-ce ce fourreau noir, vous ressemblez à n'importe lequel d'entre nous autres, j'ai vu ça au premier coup d'œil. Enfin, le docteur Laville, à la fin, dans la consultation, devinera la force qui se cache dans ce malade usé. Vous avez une physionomie très, très remarquable. Après tout, possible qu'on doive la vérité à des gens comme vous. Vous êtes tenace, vous auriez fait un bon médecin. Et du coup, il lui dit, vous avez un cancer de l'estomac. La prière du curé d'Ars, la prière du jeune curé. Lapsus. On n'a pas encore le secret du curé de Campagne. Le curé d'Ambricourt est un homme de prière dont toute la vie est polarisée par Dieu. Cette fois encore, les jugements des hommes clairvoyants s'accordent. Le curé de Torcy, bourru et tendre, bouscule souvent son jeune ami. Tu t'agites trop, tu ressembles à un frelon dans une bouteille. Mais je crois que tu as l'esprit de prière. Olivier Somrange, le légionnaire, lui dit à leur première rencontre, votre visage semble usé par la prière. Cela fait penser à un très vieux missel, ou encore à ces figures effacées, tracé au burin sur les dalles des gisants. Oui, le curé de campagne est un homme de prière. N'est-il pas symptomatique que ce sujet affleure dans toutes ses conversations, d'une manière ou d'une autre? Avec le curé de Torcy, bien sûr, mais aussi avec Chantal, la comtesse, Séraphita, Olivier, le docteur Laville. De nombreuses notations de son journal, le plus souvent furtives, le montrent en train de prier sous les formes les plus variées. Il parle volontiers de l'esprit de prière, et cette expression est très significative, elle désigne bien autre chose qu'un exercice de piété. Chaque matin, c'est une citation, le curé s'accorde du temps à la prière. Nous le voyons prier le soir au pied de son lit pour demander à notre Seigneur de bénir la résolution qu'il vient de prendre. On le voit réciter son chapelet. D'ailleurs, il meurt dans cette attitude. Et pourtant, il n'évoque jamais l'image d'Épinal, du bon prêtre de campagne, remplissant ses devoirs de piété et lisant son bréviaire. On ne le voit même jamais célébrer la messe. Ça, on reprochait ça à Bernanos. Mais il doit y avoir une raison que je ne connais pas trop bien et que je n'ai pas le temps d'y réfléchir pour l'instant. Il ne remplit jamais un devoir. Sinon, que ferait-il à 3h du matin à l'église où il s'endort, il est vrai, ou dans sa chambre, assis sur ses talons, la joue posée contre le bois de la table? Malgré ses temps de prière gratuite, il demeure insatisfait. Il regrette de n'avoir guère le temps de prier, de devoir écourter son action de grâce après la messe, parce que ses paroissiens viennent chercher des médicaments. À la campagne, à cette époque-là, le curé, il est un peu le pharmacien, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la campagne. Certes, au sein des 1000 tâches de la journée, la prière reste dans son cœur et souvent monte à ses lèvres. Dans les rencontres importantes, il prie spontanément. Au cours de la conversation décisive avec Chantal, les paroles du Salve Regina, si belles, si pures, lui viennent réellement aux lèvres, à son insu. Après l'affrontement avec la comtesse, il notera, depuis le début de cet entretien extraordinaire, je n'avais cessé de prier. Ailleurs, il remarque que seule la prière peut faire fondre cette espèce de glaçon, ces paroles du doyen de Blangermont qui lui restent sur le cœur. Bon, après que l'autre lui ait dit des choses désagréables. Mais tout ceci ne suffit pas encore. C'est précisément parce qu'il reste un affamé de la rencontre avec Dieu, du dialogue avec son Seigneur, qu'il entreprend la rédaction d'un journal. Voilà le but qu'il lui assigne, au moins quand il commence. Dans mon idée, il devrait être une conversation entre le bon Dieu et moi, un prolongement de la prière, une façon de tourner les difficultés de l'oraison, qui me paraissent encore trop souvent insurmontables, en raison peut-être de mes douloureuses crampes d'estomac. En fait, en quelques endroits, le journal devient lui-même prière. Mais il lui sert aussi de révélateur, bien que sur ce point, il ne soit pas très sûr de lui. Il fait la différence entre la prière et la réflexion. Je relis ces premières pages de mon journal sans plaisir. Certes, j'ai beaucoup réfléchi avant de me décider à l'écrire. Cela ne me rassure guère. Pour quiconque a l'habitude de la prière, la réflexion n'est trop souvent qu'un alibi, qu'une manière sournoise de nous confirmer dans un dessein. Le raisonnement laisse aisément dans l'ombre ce que nous souhaitons d'y tenir caché. L'homme du monde qui réfléchit calcule ses chances, soit. Mais que pèsent nos chances à nous autres, qui avons accepté une fois pour toutes l'effrayante présence du divin à chaque instant de notre pauvre vie? Parfois, il éprouve comme un scrupule à tenir ce journal. Il y pressent une expérience ambiguë. Prier et écrire ne sont pas la même chose, surtout lorsqu'il s'y mène encore quelques recherches de style. Le démon de l'écriture, de la complaisance en soi-même, n'est pas loin. Le prêtre devra vaincre cette tentation. Il ne veut pas devenir auteur ni poète. Je rappelle que Thérèse de Lisieux n'a pas écrit son journal. Thérèse de Lisieux a écrit par obéissance. Très important. Une seule fois, il traite directement de la prière, et là on a un passage magnifique qu'il faut quand même citer. Nous nous faisons généralement de la prière une si absurde idée. Comment ceux qui ne la connaissent guère, peu ou pas, osent-ils en parler avec tant de légèreté? un trappiste, un chartreux, travaillera des années pour devenir un homme de prière. Et le premier étourdi venu prétendra juger de l'effort de toute une vie. Si la prière était vraiment ce qu'il pense, une sorte de bavardage, le dialogue d'un maniaque avec son ombre, ou moins encore, une vaine et superstitieuse requête en vue d'obtenir les biens de ce monde, serait-il croyable que des milliers d'êtres y trouvassent jusqu'à leur dernier jour, je ne dis pas même tant de douceur, ils se méfient des consolations sensibles, mais une dure, forte et plénière joie. Oh, sans doute, les savants parlent de suggestion. C'est qu'ils n'ont sûrement jamais vu de ces vieux moines si réfléchis, si sages, au jugement inflexible et pourtant tout rayonnant d'entendement et de compassion. D'une humanité si tendre. Par quel miracle ces demi-fous, prisonniers d'un rêve, ces dormeurs éveillés, semblent-ils entrer plus avant chaque jour dans l'intelligence des misères d'autrui. Étrange rêve, singulier opium, qui loin de replier l'individu sur lui-même, de l'isoler de ses semblables, le fait solidaire de tous dans l'esprit de l'universelle charité. Hélas, on en croira sur parole des psychiatres, et l'unanime témoignage des saints sera tenu pour peu ou pour rien. Ils auront beau se tenir que cette sorte d'approfondissement intérieur ne ressemble à aucun autre, qu'au lieu de nous découvrir à mesure notre propre complexité, il aboutit à une soudaine et totale illumination qui débouche dans l'azur, on se contentera de hausser les épaules. Quel homme de prière a-t-il pourtant jamais avoué que la prière l'est déçue? Derrière, vous avez toutes les critiques, la psychiatrie, quoi, ou la psychanalyse, ou l'opium du peuple, etc. L'homme qui a écrit ces lignes aspire profondément à cette prière. Il trace là le portrait de l'homme qu'il désire devenir. Ailleurs, il note que nous sommes loin de la prière au sens que les chrétiens frivolent d'homme à ce mot. Pour lui, prier est une opération vitale, une respiration. L'image est classique, mais il lui donne une force nouvelle. Une malheureuse bête, sous la cloche pneumatique, peut faire tous les mouvements de la respiration, qu'importe. Et voilà que soudain l'air siffle de nouveau dans ses bronches, déplie un à un les délicats tissus pulmonaires de la flétrie, les artères tremblent au premier coup de bélier du sang rouge, l'être entier est comme un navire à la détonation des voiles qui se gonflent. La prière m'était à ce moment aussi indispensable que l'air à mes poumons, que l'oxygène à mon sang. Et ailleurs, il y a une autre image, lorsque s'élève en moi ce muet, ce profond appel qui précède la prière, mon visage prend une expression qui ressemble à celle de l'angoisse. Sa prière revêt des formes variées. Son fond demeure un dialogue avec le Christ, mais le secret du roi reste enfoui dans un silence pudique. Ce que je vais fixer sur le papier n'apprendrait pas grand-chose au seul ami avec lequel il m'arrive encore de parler qu'à cœur ouvert, et pour le reste, je sens bien que je n'oserais jamais écrire ce que je confie au bon Dieu chaque matin sans honte. Il me semble que je ne dois partager qu'avec notre Seigneur, le plus longtemps possible du moins, ces petites misères. Une réflexion notée en passant en dit long sur cette intimité. À nous entendre, on croirait trop souvent que nous prêchons le Dieu des spiritualistes, l'être suprême, je ne sais quoi, rien qui ressemble en tout cas à ce Seigneur que nous avons appris à connaître comme un merveilleux ami vivant, qui souffre de nos peines, s'émeut de nos joies, partagera notre agonie, nous recevra dans ses bras, sur son cœur. Une autre petite phrase, telle un éclair, illumine la profondeur de cette prière que nous cherchons à sonder. Il parle des enfants du catéchisme. J'avais rêvé de leur parler à cœur ouvert, de partager avec eux mes peines et mes joies, oh, sans risquer de les blesser, bien entendu, de faire passer ma vie dans cet enseignement comme je la fais passer dans ma prière. Alors, on s'attendrait à la formule banale, faire passer ma prière dans ma vie. Et lui, c'est l'inverse. Faire passer sa vie dans sa prière, ce qui implique, à mon avis, une attitude beaucoup plus contemplative. La manière dont il parle de sa prière confirme tous les traits que nous avons relevés jusqu'ici. Il se désole de prier si mal. Ah, si nous savions prier. Oui, je me reproche de prier peu et mal. La prière, l'habitude de la prière est là. Si vous saviez, je prie très mal. Et alors, il reçoit les reproches du curé Torcy, qui ne voit que de loin. Tu ne pries pas assez, tu souffres trop, pour ce que tu pries. Voilà mon idée. Il faut se nourrir à proportion de ses fatigues. Et la prière doit être à la mesure de nos peines. Mon ami qui veut prier ne doit pas rêver. Ta prière s'écoule en rêve. Rien de plus grave pour l'âme que ces hémorragies-là. Alors, qui est-ce qui donne ces conseils? Eh bien, c'est le curé de Torcy. Il faut aller voir un petit peu la prière du curé de Torcy. Le curé de Torcy, comme il dit, c'est pas son conseiller spirituel, mais enfin, le curé l'appellera son vieux maître. Bon. Alors, le contraste est formidable entre les deux hommes. Hein. Le curé de Torcy, il est décrit comme ça par le curé de Compagne, c'est un bon prêtre, très ponctuel, que je trouve ordinairement un peu terre à terre, un fils de paysan riche qui sait le prix de l'argent et m'en impose beaucoup par son expérience mondaine. Les confrères parlent de lui pour le doyenné de chat. Mon Dieu, que je souhaiterais d'avoir sa santé, son courage, son équilibre. Et le curé Torcy dit, nous autres, mon petit, nous sommes des Flandres, un pays de gros buveurs, de gros mangeurs et riches. La vie ne nous fait pas peur. Un gros sang bien rouge, bien épais, qui bat à nos tempes, même quand on est plein de genièvre à ras-bord, pour que la colère nous monte au nez, une colère flamande, de quoi étendre roide un bœuf. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper, nous sommes en présence d'un authentique homme de prière qui a chez lui un oratoire dépouillé, c'est son secret, où, par faveur, il admettra un jour son ami. Ses sorties contre les moines ne manquent pas d'humour, mais aussi de lucidité. Alors là, il y a la vocation près de Diocésain, du moins, enfin, c'était à l'époque. Le pasteur a une vocation différente. Tes contemplatifs sont bien outillés pour nous fournir des belles fleurs, des vraies. Malheureusement, il y a parfois du sabotage dans les cloîtres, comme ailleurs, et on nous refile trop souvent des fleurs en papier. Avec pudeur et tendresse, avec bon sens, il laisse deviner son aspiration à la prière. Tu me diras peut-être que je comprends rien au mystique. Une supposition que l'Esprit Saint me fascine un jour. Je planterai là mon balai et mes torchons, tu penses, et j'irai faire un tour chez les Séraphins pour y apprendre la musique, quitte à détonner un peu au commencement. Mais tu me permettras de pouffer de rire au nez des gens qui chantent en chœur avant que le bon Dieu ait levé sa baguette. Que veux-tu, mon petit? J'ai mes idées sur la harpe du jeune David. C'était un garçon de talent, sûr, mais toute sa musique ne l'a pas préservé du péché. Je sais bien que les pauvres écrivains bien pensants, qui fabriquent des vides saints pour l'exportation, s'imaginent qu'un bonhomme est à l'abri dans l'extase, qu'il s'y trouve au chaud et en sûreté, comme dans le sein d'Abraham. En sûreté. Oh, naturellement, rien n'est plus facile parfois que de grimper là-haut. Dieu vous y porte. Il s'agit seulement d'y tenir et le cas échéant, savoir descendre. Les moines sont des moines. Je ne suis pas un moine. Je ne suis pas un supérieur de moines. J'ai un troupeau, un vrai troupeau. Je ne peux pas danser devant l'arche avec mon troupeau. Le curé de Torcy a une autre expérience de la prière. Il dit, c'est important, lorsqu'il m'arrive d'avoir une idée, une de ces idées qui pourrait être utile aux âmes, bien entendu, parce que les autres, j'essaie de la porter devant le bon Dieu. Je la fais tout de suite passer dans ma prière. C'est étonnant ce qu'elle change d'aspect. On ne la reconnaît plus des fois. Il dira aussi par ailleurs, vous verrez à la fin des temps les tombereaux de déchets qu'on sortira des monastères. Voilà l'homme qui va être un précieux compagnon pour le curé de campagne. Évidemment, ce qui unit les deux hommes, c'est cet amour commun en Jésus-Christ. Ils sont surtout sensibles, ça c'est capital pour la vision bernardienne, au mystère de l'incarnation. Il y a quelques textes merveilleux de Bernano sur le Christ. Bon, je dis, il n'a pas pu écrire une vie du Christ. Bon, on ne l'aura jamais, tant pis. Voilà. Le curé de Torcy dit, le Verbe s'est fait chair. et les journalistes de ce temps-là n'en ont rien su. Le peuple juif avait la tête dure, sans quoi il aurait compris qu'un Dieu fait homme, réalisant la perfection de l'homme, risquait de passer inaperçu, qu'il fallait ouvrir l'œil. Et le curé d'Henricourt dira « Je ne suis pas l'ambassadeur du Dieu des philosophes, je suis le serviteur de Jésus-Christ. Le maître que nous servons ne juge pas notre vie seulement, il la partage, il l'assume. Nous aurions beaucoup moins de peine à contenter un Dieu géomètre et moraliste. Nos peines ne nous appartiennent pas, Dieu les assume, elles sont dans son cœur. Dieu n'est pas le maître de l'amour, il est l'amour même. » Bon. Jusqu'ici, nous avons fait le portrait d'un homme de prière, mais il faut avancer car cette prière est un mouvement, un cheminement, une aventure spirituelle. Une vie de prière n'est pas statique. C'est une forte dynamique. Bon. C'est ce qui va se passer dans la paroisse, enfin, dans le cœur de la vie d'une grande épreuve. Dans cet univers campagnard où apparemment se déroulent que les travaux de chaque jour, les efforts et les maladresses du jeune prêtre provoquent de légers remous qui vont s'amplifier avec le temps et devenir tempête. Très vite, le curé rencontre les obstacles à son action pastorale et l'hostilité du marchand de vin, de l'instituteur, de la femme de ménage, parlons pas du château, etc. Il reçoit une lettre anonyme qui lui dit comme il est, qu'il faut mieux s'en aller, etc. Et alors, dans cette hostilité quasi générale, son doyen veut le mettre en garde contre ses imprudences, contre sa gestion déficitaire, sa santé. Il connaît des nuits affreuses, je suis sérieusement malade, je ne tiens littéralement pas debout ce matin. Je devinais tant de choses, je n'ai aucune confiance en moi, et pourtant ma bonne volonté est si grande que j'imagine toujours qu'elle saute aux yeux, qu'on me jugera sur mes intentions. Quelle folie! Alors que je me croyais encore au seuil de ce petit monde, j'étais déjà entré bien avant, seul, et le chemin du retour fermé derrière moi, nulle retraite. Alors surgit l'épreuve spirituelle, la pire de toutes, qui englobe tous les autres. Dieu se tait, et son journal devient une succession de cris de détresse. Encore une nuit affreuse, un sommeil coupé de cauchemars. Il pleuvait si fort que je n'ai pas osé aller jusqu'à l'église. Jamais je ne suis tant efforcé de prier, d'abord posément, calmement, puis avec une sorte de violence concentrée, farouche, et enfin, le sang-froid retrouvé à grand-peine, avec une volonté presque désespérée, ce dernier mot me fait horreur, un emportement de volonté dont tout mon cœur tremblait d'angoisse. Rien. Oh, je sais parfaitement que le désir de la prière est déjà une prière, et que Dieu n'en saurait demander plus. Derrière moi, il n'y avait rien, et devant moi, un mur noir. Je vous rappelle, là, ce sera des comparaisons, Thérèse de Lisieux dans son épreuve par deux murs. Au réveil, il essaye de comprendre ce qui se passe en lui. On ne prie jamais seul. Ma tristesse était trop grande, sans doute. Je ne demandais Dieu que pour moi. Il n'est pas venu. La nuit suivante, même solitude, même silence. Les saints ont connu de ces défaillances, mais sûrement pas cette sourde révolte, ce hargneux silence de l'âme, presque haineux. Et cette fois encore, aucun espoir de forcer l'obstacle ou de le tourner. Il n'y a d'ailleurs pas d'obstacle, rien. Dieu, je respire, j'aspire la nuit entre en moi par je ne sais quelle inconcevable, qu'air inimaginable brèche de l'âme. Je suis moi-même nuit. Vous avez reconnu les grands mots des mystiques, nuit, mur, rien, vide, néant, tous les mots des mystiques. Si j'allais ne plus aimer. Et là, dans le roman, il y a dit que 10 pages sont arrachées. Bon, c'est un signe, 10 pages sont arrachées, montrant la lutte intérieure. Et alors, évidemment, la tentation, le péché contre l'espérance, le plus mortel de tous, et peut-être le mieux accueilli, le plus caressé. Il faut beaucoup de temps pour le reconnaître, et la tristesse qu'il annonce le précède et si douce. C'est le plus riche des élixirs du démon, son ambroisie, car l'angoisse, bon, et là, la page est déchirée, incroyable. L'annonce du suicide du docteur Delmande atteint profondément le jeune prêtre et porte son angoisse à son comble. Je puis dire que la pensée du docteur Delmande ne me quitte pas, mais une pensée, même déchirante, ne peut pas être une prière. Cette épreuve n'est pourtant pas un débat. Il prie, il travaille. Je ne me relâche pas de mes devoirs, au contraire. L'amélioration presque incroyable de ma santé favorise beaucoup mon travail. Aussi n'est-il pas absolument juste de dire que je ne prie pas pour le docteur Delmande. Je m'acquitte de cette obligation comme les autres. C'est là qu'il va beaucoup réfléchir sur le péché, nous en avons parlé. Il reconnaît, je n'ai pas perdu la foi. La cruauté de l'épreuve, sa brusquerie foudroyante, inexplicable, ont bien pu bouleverser ma raison, mes nerfs. Tarir subitement en moi, pour toujours, qui sait, l'esprit de prière, me remplir à déborder d'une résignation ténébreuse, plus effrayante que les grands sursauts du désespoir, ces chutes immenses. Ma foi reste intacte, je le sens. Où elle est, je ne puis l'atteindre. Je ne la retrouve ni dans ma pauvre cervelle, incapable d'associer correctement deux idées, qui ne travaillent que sur des images presque délirantes, ni dans ma sensibilité, ni même dans ma conscience. Alors là, j'ai écrit ceci dans une grande et plénière envoi du cœur et des sens, tumulte d'idées, d'images, de paroles, Dieu se tait, silence. Bon. Je sais bien qu'une pareille épreuve n'est pas nouvelle. Un médecin me dirait sans doute que je souffre d'un simple épuisement nerveux. Je sais aussi qu'on rapporte beaucoup de choses, vraies ou fausses, sur les peines intérieures des saints. La ressemblance n'est qu'apparente, hélas. Les saints ne devaient pas se faire à leur malheur. Je sens déjà que je me fais au mien. Si je cédais à la tentation de me plaindre, à qui que ce fût, le dernier lien entre Dieu et moi serait brisé. Il me semble que j'entrerais dans le silence éternel. Thérèse n'a parlé de son épreuve qu'à sa prière, mais elle voulait en parler à personne d'autre. C'est dans cet état qu'il rencontre Chantal, la fille du château révoltée. Elle a dû s'apercevoir que je priais. Elle a frappé du pied avec colère. Que dire, que faire en faveur de cette créature blessée dont la vie semblait couler à flot de quelques mutilations invisibles? J'avais d'ailleurs retrouvé un peu de force pour prier. Et alors il se passe quelque chose de singulier. Il voit le visage de Chantal dans son mystère surnaturel. Je me demande si cette espèce de vision n'était pas liée à ma prière. Elle était ma prière même, peut-être. Ma prière était triste et l'image était triste comme elle. Je pouvais à peine soutenir cette tristesse et en même temps, je souhaitais de la partager, de l'assumer tout entière, qu'elle me pénétrât, remplit mon cœur, mon âme, mes os, mon être. Elle faisait taire en moi cette sourde rumeur de voix confuse, ennemie, que j'entendais sans cesse depuis 2 semaines. Elle rétablissait le silence d'autrefois, le bienheureux silence au-dedans duquel Dieu va parler, Dieu parle. Alors après cet affrontement, il fait un peu son examen de conscience. Voilà des semaines que je ne priais plus, que je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus, qui sait? Cette grâce des grâces se mérite comme une autre, et je ne la méritais plus sans doute. Enfin Dieu s'était retiré de moi, de cela du moins je suis sûr. Dès lors, je n'étais plus rien et j'ai gardé pour moi seul ce secret. Bien plus, je me faisais une gloriole de ce silence gardé. Je le trouvais beau, héroïque. Et là, il s'accable de reproches. Mais maintenant, voyez combien le rythme de son épreuve intérieure est guidé par la rencontre apostolique. Maintenant, il va rencontrer la comtesse. On en a tellement parlé que je n'en dis pas plus. Vous savez qu'il va lui donner cette paix qu'il n'a précisément pas en lui-même. Soyez en paix, lui avais-je dit. Elle avait reçu cette paix à genoux, qu'elle la garde à jamais. C'est moi qui la lui ai donnée. L'espérance qui se mourait dans mon cœur a refleuri dans le sien. L'esprit de prière que j'avais cru perdu sans retour, Dieu le lui a rendu et qui sait, c'est moi. L'esprit de prière que j'avais cru perdu sans retour, Dieu lui a rendu et qui sait, en mon nom peut-être. Qu'elle garde cela aussi, qu'elle garde tout, Me voilà dépouillé, Seigneur, comme vous seul savez dépouiller, car rien n'échappe à votre sollicitude effrayante, à votre effrayant amour. Nous sommes bien là dans la substitution et la communion des saints. La longue épreuve de la comtesse est achevée, accomplie. La mienne commence, peut-être est-ce la même. Peut-être Dieu a-t-il voulu mettre sur mes épaules le fardeau dont il venait de délivrer, sa créature épuisée. L'épreuve ne cesse pas, il lutte pour prier, il veille toute la nuit, etc. Et alors, il va encore rencontrer le curé Torcy qui va lui donner des lumières. Et puis cette mine, d'abord tu te nourris de manière absurde, tu ne pries pas assez. Alors ça manque pas d'humour, évidemment. Alors c'est que je ne peux pas. Si tu ne peux pas prier, rabâche. Écoute, j'ai eu mes traverses moi aussi. Le diable m'inspirait une telle horreur de la prière que je suis à grosses gouttes pour dire mon chapelet. Tâche de comprendre. Oh, je comprends. Alors, les curés Torcy commencent par un long monologue sur l'idée qu'il se fait de la vocation, liée selon lui à la place que Dieu attribue à chacun dans l'Évangile. Voici ce qu'il dit. Notre Seigneur nous a rencontrés quelque part, à Bethléem, à Nazareth, sur les routes de Galilée, que sais-je. Un jour entre les jours, ses yeux se sont fixés sur nous et selon le lieu, l'heure, la conjoncture, notre vocation a pris son caractère particulier. Quoi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Je ne m'étais pas aperçu que je pleurais, je n'y songeais pas. La vérité est que depuis toujours, c'est au jardin des Oliviers que je me retrouve, et à ce moment précis, où posant la main sur l'épaule de Pierre, Jésus fait cette demande, bien inutile en somme, presque naïve, mais si courtoise, si tendre, dormez-vous. Notre Seigneur m'a fait cette grâce de me révéler aujourd'hui par la bouche de mon vieux prêtre que rien ne m'arracherait à la place choisie pour moi de toute éternité, que j'étais prisonnier de la Sainte Agonie. Voilà, après cette épreuve de la prière, la révélation de sa vocation dans la vocation, et, alors évidemment, vous allez presque dire évidemment, vous pouvez s'y attendre, c'est les prisonniers de la Sainte Agonie. Alors voilà le secret. Alors à partir de là, comme il dit, je n'ai plus rien à dire. Il veut simplement qu'on le laisse tranquille avec Dieu. D'ailleurs, il va se séparer du curé Torcy, qui lui-même va être hospitalisé, et nous avions l'air de nous dire adieu de loin, de bord à l'autre, d'une route invisible. Et alors, va commencer la passion, le chemin de croix du curé de campagne. Et la dernière parole du curé Torcy, « Je n'ai qu'une parole, je te la donne, tu es un fameux petit prêtre quand même. » Alors là, il lui donne des conseils thérésiens. Travaille, fais des petites choses en attendant, au jour le jour. Applique-toi bien. Rappelle-toi l'écolier penché sur sa page d'écriture qui tire la langue. Voilà comment le bon Dieu souhaite nous voir lorsqu'il nous abandonne à nos propres forces. Les petites choses ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. C'est comme les fleurs des champs, vois-tu. On les croit sans parfum et tout ensemble, elles embaument. La prière des petites choses est innocente. Et c'est la question. Et la Sainte Vierge, est-ce que tu pries la Sainte Vierge? Et alors, c'est le fameux morceau d'anthologie que je ne lirai pas, absolument admirable, il apparaît plus tard dans le bouquin, sur un des plus grands textes écrits sur Marie, hein, qui est cette petite fille, cette reine des anges, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, la cadette du genre humain, qui porte un regard sur nous, le regard d'elle qui est sans péché et qui en un sens n'arrive pas à nous comprendre en un sens, parce qu'elle ne sait pas ce qu'est le péché. Alors, elle, c'est notre mère, mais elle ne sait pas vraiment trop ce que nous vivons, parce qu'il y a ce péché là. Alors, ce n'est pas un hasard si Bernanos a mis le chemin de croix de son prêtre sous le patronat de la Vierge Enfant. Merveilleuse intuition du contemplatif, la Vierge l'innocent va accompagner le curé d'Andricourt dans sa passion, comme elle se trouvait sur le parcours du chemin de croix et debout au calvaire. Alors, la passion. Rentré chez lui, le curé, malgré de vives souffrances, repart assister un mourant. Puis, contre toute sagesse, va visiter diverses familles. Sa tâche terminée, le voici à travers des pâturages détrempés, égrenant son chapelet. Première chute, près du bois d'Auchy, plié en deux par la souffrance, épuisé, il a dans la tête plein des images de cette vierge enfant, il a une sorte de vision. Je regardais ses mains, c'était une main d'enfant pauvre, déjà usé par le travail des lessives. Comment exprimer cela? Je ne voudrais pas que ce fût un rêve, je ne voulais pas que ce fût un rêve, et pourtant, je me souviens d'avoir fermé les yeux. Je craignais, en levant les paupières, d'apercevoir le visage devant lequel tout genou fléchit. Je l'ai vu. C'était un visage d'enfant ou de très jeune fille, sans aucun éclat. Elle était l'innocence. C'est une page qui s'égare. Agar, il trébuche de nouveau, s'écroule sur la route, évanoui. Deuxième chute, c'est Séraphita du Mouchet, une petite fille un peu perverse du catéchisme, qui va jouer le rôle de Véronique. Elle essuie sa face avec un vieux chiffon. Elle pense qu'il a vomi du vin, qu'on l'a fait boire. En fait, rentré chez lui, il comprendra qu'il a une première hémoptysie. Il tâche de se rassurer. Après tout, le sang qui tache ma soutane pourrait provenir d'un saignement de nez. Mais bientôt, une autre hémoptysie lui enlève ses doutes. Et donc, il va aller consulter à Lille le docteur. C'est ça. Passion qui entre dans la phase ultime. Il avait cru qu'il avait une tuberculose. Et la peur de la mort m'a effleuré. Oh, sans doute, sa pensée revient souvent. Parfois, elle m'inspire de la crainte. Mais la crainte n'est pas la peur. Cela n'a duré qu'un instant. Je ne saurais à quoi comparer cette impression fulgurante au scintillement d'une mèche de fouet à travers le cœur, peut-être. Oh, sainte agonie. La pensée du Christ agonisant ne le quitte plus. Les forces me reviennent avec une espèce d'appétit. Le temps est d'ailleurs beau, sec et froid. Évidemment, je prie mieux, mais je ne reconnais pas ma prière. Elle avait jadis un caractère d'imploration têtue, et même la leçon du bréviaire, par exemple, retenait mon attention. Je sentais se poursuivre en moi ce colloque avec Dieu, tantôt suppliant, tantôt presque pressant, impérieux. Oui, j'aurais voulu lui arracher ses grâces, faire violence à sa tendresse. Maintenant, j'arrive difficilement à désirer quoi que ce soit. Comme le village, ma prière n'a plus de poids et s'envole. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais. Il entre dans un silence paisible. Bien. J'ai obligé de sauter. C'est là qu'il rencontre le légionnaire qui va faire de la moto. Avec sa moto, il va vivre, il a un regain de, avant de mourir, un regain de jeunesse, il découvre l'amitié avec ce garçon qui a son âge et qui est tellement différent, et qui lui dit, nous sommes de la même race, et en un sens, ça fait penser au rameau. Avant la passion, il y a un moment fort, et d'ailleurs, le curé Torcy avait parlé des rameaux, et tiens, justement, cet épisode de l'entrée triomphale de Jérusalem, je le trouve si beau. Notre Seigneur a daigné goûter au triomphe comme au reste, comme à la mort. Il n'a rien refusé de nos joies. Il n'a refusé que le péché. Et juste avant de mourir, le jeune prêtre va retrouver cette ivresse du bonheur de la jeunesse. Il rit, il est heureux. Et puis, justement, le temps ne s'accorde que trop bien avec ma... J'allais écrire ma joie, mais le mot ne serait pas juste. Attente conviendrait mieux. Oui, une grande, une merveilleuse attente qui dure même pendant le sommeil, car elle m'a positivement réveillé cette nuit. Je me suis trouvé les yeux ouverts dans le noir, si heureux que l'impression en était presque douloureuse à force d'être inexplicable. Je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau et j'ai prié jusqu'à l'aube. C'était comme un grand murmure de l'âme, etc. Alors le voilà qui va consulter à Lille. Bon, il s'est trompé de médecin. Enfin bon, il arrive à un autre médecin, un médecin étrange, qui est lui-même un grand malade, et qui se drogue pour tenir jusqu'au bout. C'est un médecin athée. Voilà. Voilà les deux jeunes hommes condamnés tous les deux face à face. Bon. Et voici ce que lui dit le docteur. Je demande à la morphine ce que vous demandez probablement à la prière, l'oubli. Pardon, lui dis-je, on ne demande pas à la prière l'oubli, mais la force. La prière, a-t-il repris d'une voix rêveuse, Je vous souhaite de prier aussi facilement que je m'enfonce cette aiguille sous la peau. Les anxieux de votre sorte ne prient pas ou prient mal. Avouez donc plutôt que vous n'aimez dans la prière que l'effort, la contrainte. C'est une violence que vous exercez contre vous-même à votre insu. Le grand nerveux est toujours son propre bourreau. N'allez pas me prendre pour un matérialiste à l'ancienne mode. L'instinct de la prière existe au fond de chacun de nous et il n'est pas moins inexplicable que les autres. Bon, dialogue entre la science moderne et la prière. Alors, le docteur, puisqu'il voit qu'il peut atteindre la vérité, lui dit qu'elle a un cancer de l'estomac. Stupeur du prêtre. Il avait cru qu'il n'était pas tellement atteint. Me voilà, je suis déjà plus qu'un mort parmi les vivants. Il reçoit le coup de boue et chancelle. C'est là qu'il n'est pas un héros de Plutarque. Que Dieu me pardonne, je ne songeais pas à lui. Quoi que je fasse, je sais bien que je n'arriverai jamais à comprendre par quel affreux prodige j'ai pu, en pareille conjoncture, oublier jusqu'au nom de Dieu. J'étais seul, inexprimablement seul, en face de ma mort, et cette mort n'était que la privation de l'être, rien de plus. Il pleure, et il est humilié de paraître lâche aux yeux du médecin. Ce n'était pas sur moi que je pleurais, je le jure. Je n'ai jamais été si près de me haïr. Je ne pleurais pas sur ma mort. J'étais comme un pauvre homme qui, sans oser le dire, ni seulement s'avouer qu'il aime. Oh, je ne nie pas que ces larmes pouvaient être lâches. Je pense aussi qu'elles étaient des larmes d'amour. Sorti du médecin anéanti, il entre dans une église. J'aurais voulu m'agenouiller librement sur les dalles, m'y étendre plutôt, m'y étendre face contre terre, comme à son ordination. Je n'avais jamais senti avec tant de violence la révolte physique contre la prière, et si nettement que j'en ai trouvé nul remords. Angoisse, nuit, sueur, il est à Gethsémani. Le voilà maintenant dans un misérable estaminet, l'auberge du Nord. La patronne lui dit « À votre âge, on a toute la vie devant soi. » Il ne répond rien. J'ai ouvert la bouche pour répondre, et je n'ai pas compris d'abord. Oui, avant même d'avoir rien résolu, pensé à rien, je savais que je garderais le silence. Garder le silence, quel mot étrange. C'est le silence plutôt qui nous garde. Mon Dieu, vous l'avez voulu ainsi, j'ai reconnu votre main, j'ai cru la sentir sur mes lèvres. Dans sa passion, Jésus se taisait. Et il se taisait. L'agonie du prêtre restera enveloppée de silence, et alors il dit, le silence intérieur, celui que Dieu bénit, ne m'a jamais isolé des êtres. Il me semble qu'ils y entrent, je les reçois ainsi qu'au seuil de ma demeure, et ils y viennent sans doute, ils y viennent à leur insu. Et là, je ne puis leur offrir qu'un refuge précaire. Mais j'imagine le silence de certaines âmes comme d'immenses lieux d'asile. Les pauvres pécheurs à bout de force y entrent à tâtons, s'y endorment et repartent consolés, sans garder aucun souvenir du grand temple invisible où ils ont déposé un moment leur fardeau. Le dernier acte de son apostolat est d'aller voir son confrère Dufréti, qu'on appelait à l'époque le défroqué, qui vit avec une compagne qui est une pauvre fille de salle qui travaille dans un hôpital. Et là, voilà le calvaire du curé Campagne, un appartement minable, un escalier, etc., et le dialogue avec cette pauvre fille, qui est d'ailleurs étonnant. Décor sordide. Bon. Il me semble que je me blottis dans cette laideur, cette misère. Elle m'aurait inspiré jadis du dégoût. Je suis content qu'elle accueille aujourd'hui mon malheur. Il est clair qu'en face de la mort, mon attitude ne peut être que celle d'un homme très supérieur à moi, que j'admire, M. Olivier par exemple, ou le curé Torcy. Mon Dieu, je vous donne tout de bon cœur. Seulement, je ne sais pas donner, je donne ainsi qu'on laisse prendre. Le mieux est de rester tranquille. Je ne veux rien braver, rien défrayer. L'héroïsme à ma mesure est de n'en avoir pas. Et puisque la force me manque, je voudrais maintenant que ma mort fût petite, aussi petite que possible, qu'elle ne se distingue pas des autres événements de ma vie. Si sévèrement que je me juge parfois, Je n'ai jamais douté d'avoir l'esprit de pauvreté. Celui d'enfance lui ressemble. Les dieux, les deux sans doute, ne font qu'un. Sa dernière conversation est avec la compagne de Dufreuil, qui lui dit ceci, dialogue étonnant, hein, final. Voici ce que dit cette pauvre fille. Lorsque je ne suis plus capable de rien, que je ne tiens plus sur mes jambes, avec mon mauvais point de côté, je vais me cacher dans un coin, toute seule, et vous allez rire. Au lieu de me raconter des choses gaies, des choses qui remontent, je pense à tous ces gens que je ne connais pas, qui me ressemblent. Il y en a, la terre est grande. Les mendiants qui battent la semelle sous la pluie, les gosses perdus, les malades, les fous des asiles qui gueulent à la lune, et tant, et tant. Je me glisse parmi eux, je tâche de me faire petite, et pas seulement les vivants, savez-vous, les morts aussi qui ont souffert, et ceux à venir qui souffriront comme nous. C'est-à-dire que cette fille a une prière universelle. Et c'est avec elle que le prêtre partage sa passion. Le journal s'achève dans une atmosphère d'enfance où ruisselle la paix et l'abandon. C'est un mince filet d'eau limpide et maintenant cela déborde de l'âme, me remplit de fraîcheur, silence et paix. Il se demande comment il fera pour mourir, exactement comme Thérèse de Lisieux, mais ne veut pas s'inquiéter à l'avance. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi prévoir? Si j'ai peur, je dirai j'ai peur, sans honte. Que le premier regard du Seigneur, lorsque m'apparaîtra sa sainte face, soit donc un regard qui rassure. Là, nous sommes en climat thérésien absolument. Sa dernière nuit, la passe dans la prière, disant son chapelet, l'aube se lève, et voilà la fin du journal. L'espèce de méfiance que j'avais en moi de ma personne vient de se dissiper, je crois, pour toujours. Cette lutte a pris fin, je ne la comprends pas, je suis réconcilié avec moi-même, avec cette pauvre dépouille. Alors, vous avez maintenant la phrase qui termine le journal, qui est la phrase à graver dans le mur de votre cellule ou dans votre portefeuille, parce que c'est la phrase ultime écrite. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. Nous avons vu tous les gens qui se haïssent. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. C'est cette phrase qui a empêché le critique littéraire Charles Dubos de se suicider. Dubos était dans une déprime qui durait. Il a lu pour les campagnes. Il a lu cette phrase qui a empêché qu'il se suicide. C'est lui qui l'a dit. Je la redis. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. C'est une phrase qui en pastoral et en confession peut faire beaucoup. Alors, le journal est arrêté, c'est Louis Dufreuil qui va rendre compte de la mort de son confrère en écrivant au doyen, et voici ce qu'il dit. Il avait dit, il va chercher un prêtre. Il est prêtre. Le prêtre se faisant toujours attendre, j'ai cru devoir exprimer à mon infortuné camarade le regret que j'avais d'un retard qui risquait de le priver des consolations que l'Église réserve aux moribonds. Cette lettre a un style ecclésiastique incroyable, il faut le lire tout entier. Il n'a pas paru m'entendre, mais quelques instants plus tard, sa main s'est posée sur la mienne, tandis que son regard me faisait nettement signe d'approcher mon oreille de sa bouche. Il a prononcé alors distinctement, bien qu'avec une extrême lenteur, ces mots que je suis sûr de rapporter très exactement. Qu'est-ce que cela fait? Tout est grâce. Je crois qu'il est mort presque aussitôt. Alors ça, c'est la fin du livre. La fin du journal, on va dire. Ça, c'est la fin du livre. Et là, nous avons le secret. Bon, ce tout est gras, c'est exactement la situation de Thérèse dans dans son agonie, dans sa mort, elle ne peut plus communier pendant plus d'un mois. Les sœurs se scandalisent et elle dit, si on ne peut pas recevoir les sacrements, qu'importe, tout est grâce. Alors, tout est grâce, c'est le mot ultime du curé de campagne, c'est-à-dire tout dans tout, il y a tout, c'est-à-dire tout ce qu'il a vécu, tout cet itinéraire, des joies, des peines, tout ça. Et c'est là aussi qu'on voit que Jonathan de la campagne, c'est l'histoire d'un pauvre garçon qui est en même temps dans son sacerdoce une sorte de saint, qui malgré les apparences, délivre les pécheurs dont nous avons parlé de tous leurs maux, les rend à la joie et la paix, et qui lui-même retrouve la paix, la joie, le silence, et nous sommes en marche vers une résurrection. Bon, évidemment, ça finit comme ça, tout est grâce. Et donc, de même que la passion et la résurrection donnent tout son sens à la vie de Jésus, de même, le cheminement du curé campagne que nous avons suivi s'éclaire à la lumière de cette mort abandonnée et paisible. On ne saurait juger un âme avant sa mort, c'est la mort qui donne son sens à la destinée, disait Bernanos. C'est donc à la lumière de la passion qu'il faut relire le journal pour pénétrer le mystère de cette destinée. À la veille de mourir, le prêtre découvre le sens de qu'il vient de vivre en quelques mois à Ambricourt. Ne sont jeunes, vraiment jeunes, que ceux que Dieu a désignés pour ne pas survivre à leur jeunesse. J'appartiens à cette race d'hommes. Je me demandais, que ferais-je à 50 ans, 60 ans? Et naturellement, je ne trouvais pas de réponse. Je ne pouvais pas en imaginer une. Il n'y avait pas de vieillard en moi. Et une image de son journal dévoilait inconsciemment déjà le sens de sa vie. C'est vrai que parfois, j'imagine que le village m'a cloué là-haut sur une croix, qu'il me regarde au moins mourir. L'amour, disait Charles de Foucault, veut la ressemblance, l'identité. Peu à peu, sans savoir comment, le curé d'Ambricourt s'est mis à la suite du Christ souffrant. Toutes ses épreuves, ses nuits, ses tentations, ses faiblesses, ses découragements n'ont été que des étapes pour le faire arriver au lieu même de sa vocation, être prisonnier de la sainte agonie. On peut donc repérer tout au long de ce roman un itinéraire mystique d'une grande vraisemblance, et l'on pourrait suivre le déroulement des nuits purificatrices, des grâces, des retombées et des brèches, comme il dit, qui débouchent dans l'azur. Mais on ne devrait pas négliger un fait important, la vie de prière accule le prêtre non seulement à une identification au Christ, au plan mystique, mais aussi à un engagement de tout l'être. Alors, suivrai aussi tout un passage sur la prière et l'injustice, c'est-à-dire la place de ces prêtres en plein 1930, 1940, etc., dans l'histoire. Et on voit tout le problème de l'Église dans son temps. C'est pas seulement un itinéraire entre Dieu et lui, c'est aussi au sein de l'histoire. J'ai pas le temps de développer ça, mais ça y est, c'est important, surtout avec le curé de Torcy, et il y a même allusion à la Russie, au monde communiste, à la libération de l'homme. On est en plein dans l'histoire. Il y a d'ailleurs des travaux qui ont été faits sur le Conseil historique de la Curie Campagne. C'est pour vous dire que c'est pas simplement un livre spirituel au sens de spiritualité. C'est un livre inséré dans l'histoire. Donc voilà, il resterait, enfin avec ça on est déjà pas mal, il resterait à un chapitre donc sur l'influence de Thérèse chez Bernanos. Déjà on a pressenti sur plusieurs points, il y en a bien d'autres. Et puis, quelque chose de très important, c'est l'Église, notre Église est l'Église des saints, c'est-à-dire la place de la sainteté dans l'Église. Et puis, en ultime, très important, l'espérance et la joie. L'espérance et la joie. Car, comme il dit, le fin mot des romans de Bernanos, c'est pas la tristesse ou le péché, le fin mot, c'est l'espérance théologale, hein, alors qu'il nous met dans l'actualité très forte d'un Jean-Paul II citant Bernanos à Reims, et l'espérance étant la vertu théologale peut-être la plus importante dans le monde où nous sommes. Mais ça, si Dieu veut, vous le lirez dans la suite. Et je vous remercie de votre inaltérable attention.